Lire sur la plage. Oh, c'est pas si facile de lire sur la plage. Allongé sur le dos, c'est presque impossible. Le soleil éblouit, il faut tenir à bout de bras le livre au-dessus du visage. Oh, c'est bon quelques minutes, et puis on se retourne. Sur le côté, appuyé sur un coude, la main posée contre la tempe, l'autre main tenant le livre ouvert et tournant les pages. Oh, c'est assez inconfortable aussi. Alors, on finit sur le ventre, les deux bras repliés devant soi. Au ras du sol, il y a toujours un peu de vent. Les petits cristaux micacés s'insinuent dans la reliure. Sur le papier grisâtre et léger des livres de poche, les grains de sable s'amassent, perdent leur éclat, se font oublier. C'est juste un poids supplémentaire qu'on disperse négligemment au bout de quelques pages. Mais sur le papier lourd, grenu et blanc des éditions d'origine, le sable s'insinue. Il se diffuse sur les aspérités crémeuses et brille çà et là. C'est une ponctuation supplémentaire à un autre espace ouvert. Le sujet du livre compte aussi. On tire de belles satisfactions à jouer sur le contraste. Lire un passage du journal de Léoto où il vilipende précisément les corps amassés sur les plages de Bretagne. Lire « À l'ombre des jeunes filles en pleurs » et renouer avec un monde balnéaire de canotiers, d'ombrelles et de saluts distillés à l'ancienne. Plonger sous le soleil dans le malheur pluvieux de l'Evertwist. Chevaucher la D'Artagnan dans l'immobilité pesante de juillet. Mais travailler dans la couleur est bon aussi. Étirer à l'infini le désert de l'Ecclésio dans son propre désert. Et dans les pages, alors, le sable dispersé prend des secrets de Touareg, des ombres lentes et bleues. À lire trop longtemps, les bras étalés devant soi, le menton s'enfonce, la bouche boit la plage, alors on se redresse. Bras croisés contre la poitrine, une seule main glissée à intervalles pour tourner les pages et les marquer. C'est une position adolescente, mais pourquoi ? Elle tire la lecture vers une ampleur, un rien mélancolique. Toutes ces positions successives, ces essais, ces lassitudes, ces voluptés légères, c'est la lecture de la plage. On a la sensation de lire avec le corps. Et maintenant, le petit plaisir minuscule du pull d'automne. C'est toujours plus tard qu'on ne pensait. Septembre est passé si vite, plein de contraintes de rentrée. En retrouvant la pluie, on se disait « voilà l'automne ». On acceptait que tout ne soit plus qu'une parenthèse avant l'hiver. Mais quelque part, sans trop se l'avouer, on attendait quelque chose. Octobre, les vraies nuits de gel. Dans la journée, le ciel bleu sur les premières feuilles jaunes. Octobre, ce vin chaud, cette mollesse douce de la lumière, quand le soleil n'est bon qu'à 4 heures, l'après-midi, que tout prend la douceur oblongue des poires tombées de l'espalier. Alors, il faut un nouveau pull. Porter sur soi les châtaignes, les sous-bois, les bocs des marrons, le rouge rosé des russules. Refléter la saison dans la douceur de la laine. Mais un pull neuf. Choisir le nouveau feu qui va commencer de finir. Dans des tons verts ? Un vert d'Irlande. Pois cassé, brumeux, whisky rugueux. Sauvage et solitaire comme les champs de tourbe. L'herbe rase. Mais roux ? Oh, il y en a tant de rousseur. Chevelure ophélienne, désir de goûter comme avant. Pain beurre, pain d'épices. Forêt surtout, rousseur du sol, rousseur du ciel. Insaisissable odeur de poire, de foire et bois, de cèpe et d'eau. Égrège, pourquoi pas ? Un pull à grosse maille à croisillons, comme si quelqu'un avait encore le temps de tricoter pour vous. Un pull très grand. Le corps va s'abolir, on sera la saison. Un pull en creux d'épaule en espérant. Même pour soi, c'est bon. Cette façon de jouer la fin des choses ton sur ton. Choisir le confort des mélancolies. Acheter la couleur des jours. Un nouveau pull d'automne. Le journal du petit déjeuner. C'est un luxe paradoxal. Communier avec le monde dans la paix la plus parfaite, dans l'arôme du café. Sur le journal, il y a surtout des horreurs, des guerres, des accidents. Entendre les mêmes informations à la radio, ce serait déjà se précipiter dans le stress des phrases martelées en coups de poing. Avec le journal, c'est tout le contraire. On le déploie tant bien que mal sur la table de la cuisine, entre le grille-pain et le beurrier. On enregistre vaguement la violence du siècle, mais elle sent la confiture de groseille, le chocolat, le pain grillé. Le journal par lui-même est déjà pacifiant. On n'y découvre pas le jour, ni la réalité. On lit Libération, Le Figaro, Ouest-France ou La Dépêche du Midi. Sous la pérennité du bandeau titre, les catastrophes du présent deviennent relatives. Elles ne sont là que pour pimenter la sérénité du rite. L'ampleur des pages, l'encombrement du bol de café permettent seulement une lecture posée. On tourne les pages précautionneusement, avec une lenteur révélatrice. Il s'agit moins d'absorber le contenu que de profiter au mieux du contenant. Dans les films, les journaux sont souvent symbolisés par la frénésie des rotatives, les cris surexcités des vendeurs dans la rue. Mais le journal que l'on découvre au petit matin dans sa boîte aux lettres n'a pas la même fièvre. Il dit les nouvelles d'hier. Ce faux présent semble venir d'une nuit de sommeil. Et puis, les rubriques sages comptent davantage que le sensationnel. On lit la météo, et c'est d'une abstraction très douce. Au lieu de guetter au dehors les signes évidents de la journée, on les infuse du dedans, dans l'amertume sucrée du café. La page des sports, surtout, est immuable et rassurante. Les défaites y sont toujours suivies d'espoirs de revanche. Les échéances se renouvellent avant que les tristesses ne soient consommées. Il ne se passe rien dans le journal du petit déjeuner. Et c'est pour ça que l'on s'y précipite. On y allonge la saveur du café chaud, du pain grillé. On y lit que le monde se ressemble et que le jour n'est pas pressé de commencer. Le bibliobus. C'est bien le bibliobus. Il passe une fois par mois et s'installe sur la place de la Poste. On connaît toutes les dates de l'année à l'avance. Elles sont écrites sur une petite carte brune qu'on vous glisse dans un livre emprunté. Le 17 décembre, de 16h à 18h. On sait que le grand camion blanc balafré du sigle Conseil Général sera fidèle au rendez-vous. C'est rassurant, cette main mise sur le temps. Rien de mal ne peut vous arriver, puisque l'on sait déjà que dans un mois, le salon de lecture ambulant reviendra mettre une petite tache de lumière sur la place. Oui, c'est encore mieux l'hiver, quand les rues du village sont désertes. Le seul centre d'animation devient alors le bibliobus. Oh, il n'y a pas foule, ce n'est pas le marché. Mais quand même, des silhouettes familières convergent vers le petit escalier mal commode qui permet d'accéder au camion. On sait que dans 6 mois, on rencontrera la Michelle et Jacques, Armel et Océane, d'autres qu'on connaît moins, mais qu'on salue d'un sourire entendu. Rien que ce rite à partager, c'est toute une complicité. La porte du camion est étrange. Il faut se glisser entre 2 parois transparentes de plastique rigide qui prémunissent à l'intérieur des courants d'air. Ce sas entrouvert, traversé, on est tout de suite dans le moqueté. Le silence douillet, la flânerie studieuse. La jeune fille et l'employé plus âgé à qui l'on rend les livres rapportés témoignent par leur salut qu'ils vous connaissent. Mais leur amabilité ne va pas jusqu'à l'enjouement. Tout doit rester feutré. Même si certains jours l'exiguïté du lieu fait déployer des trésors d'ingéniosité déambulatoire pour ne pas déraper vers la promiscuité, chacun reste libre dans son silence, dans son choix. Les rayons sont des plus variés. On a droit au total à 12 emprunts. Et c'est très bon de faire dans l'hétéroclite. Ce petit recueil de poèmes en prose de Jean-Michel Maupoix, pourquoi pas? Le jour tarde sous un entassement de feuilles et de fleurs de tilleul. Ah, cette phrase suffit à en donner l'envie. L'énorme album de Christopher Finch, L'Aquarelle au 19e siècle, sera un peu lourd. Mais il y a des beautés rousses, prépaphalétiques, des aubes de Turner. Et puis quel privilège de s'arroger ainsi en toute impunité ces 3 kilos volumineux de luxe mat. Un magazine de photos avec des enfants de Bouddha, une cassette des cantates de Bach, un album sur le Tour de France, on peut glisser dans son panier toutes ces merveilles disparates. Déjà comblé, se dire que l'on va en glaner encore tout autant au hasard des étagères. Les enfants n'en finissent pas de s'accroupir devant les bandes dessinées, les romans illustrés, de s'émerveiller parfois. La dame a dit que je pouvais en prendre un de plus. La soif étanchée, le choix s'alentit. Une odeur de laine tiède, de gabardine mouillée monte dans l'espace étroit. Mais c'est du sol surtout que monte une sensation particulière, une espèce de tangage infime, de roulis. On avait oublié l'équilibre des pneus, le fondement mobile de ce temple familial. Ce mal de mer au chaud des livres, c'est la province en creux d'hiver. Prochain passage du bibliobus, jeudi 15 janvier de 10h à 12h. Place de l'église de 16h à 18h. Place de la poste. Fin de la deuxième partie de ce livre de Philippe Delerme et de ses petits plaisirs minuscules.